Cinquième partie. Chapitre 42. Obinze vérifiait souvent les messages sur son BlackBerry. Trop souvent, même quand il se levait la nuit pour aller aux toilettes. Il avait beau se moquer de lui-même, il ne pouvait s'en empêcher. 4 jours entiers, passèrent avant qu'elle réponde. Il se découragea. Elle n'était pas d'un naturel farouche, et elle aurait répondu beaucoup plus vite en temps normal. Elle était peut-être occupée, se dit-il, sachant pertinemment que l'argument « occupée » était surtout pratique et peu convaincant. À moins qu'elle n'ait changé et soit devenue le genre de femme qui attend 4 jours afin de ne pas paraître trop empressée, pensée qui le refroidit encore davantage. Sa réponse était chaleureuse, mais trop courte, racontant qu'elle était excitée et nerveuse à la perspective de changer de vie et de revenir au pays, mais sans donner plus de détails. Quand comptait-elle revenir exactement? Et qu'est-ce qui était si difficile de laisser derrière elle? Il consulta à nouveau sur Google le site de l'Américain noir, espérant y trouver un poste faisant état d'une rupture, mais le blog n'avait de lien qu'avec des articles universitaires. L'un d'eux avait pour thème la musique hip-hop originelle comme forme d'activisme politique. C'était typiquement américain de considérer que le hip-hop était un sujet sérieux. Il le parcourut en espérant le trouver stupide, mais il lui parut suffisamment intéressant pour qu'il le lise d'un bout à l'autre, et cela lui laissa un sentiment d'amertume. L'Américain noir était devenu, de façon absurde, un rival. Il chercha sur Facebook. Cosi était active sur Facebook. Elle postait des photos et restait en contact avec les gens, mais lui avait fermé son compte quelque temps auparavant. Il avait été séduit par Facebook au début, fantôme d'anciens amis reprenant soudain vie accompagnés d'épouses, de maris et d'enfants, avec des portraits soulignés de commentaires. Mais il fut bientôt consterné par l'atmosphère d'irréalité, la manipulation étudiée des images destinées à créer une vie parallèle, les photos prises dans l'intention de les publier, montrant en arrière-plan les choses dont ils étaient fiers. Il rouvrit son profil pour rechercher Ifemelu, mais elle n'était pas inscrite. Peut-être était-elle aussi déçue que lui par Facebook. Il en fut vaguement heureux, un exemple supplémentaire de leur similarité. Son Américain noir était sur Facebook, mais son profil n'était visible que pour ses amis, et l'idée saugrenue effleura Obinze de lui demander d'être son ami, juste pour voir s'il avait posté des photos d'Ifemelu. Il voulait attendre quelques jours avant de répondre à Ifemelu, mais il se retrouva ce soir-là, dans son bureau, à écrire un long email relatant la mort de sa mère. « Je n'ai jamais cru qu'elle mourrait jusqu'à ce qu'elle meure. Cela a-t-il un sens ?» Il avait découvert que le chagrin ne s'atténue pas avec le temps. C'était au contraire un état volatile. Tantôt la douleur était aussi vive que le jour où la femme de ménage l'avait appelée en sanglotant, disant qu'elle gisait sans vie sur son lit. Tantôt il oubliait qu'elle était morte et projetait un voyage en avion dans l'Est pour aller la voir. Elle avait considéré sa récente réussite d'un œil réprobateur, comme si elle ne comprenait pas un monde où l'on pouvait gagner autant d'argent aussi facilement. Lorsqu'il lui avait fait la surprise d'une nouvelle voiture, elle lui avait dit que l'ancienne la satisfaisait, la Peugeot 505 qu'elle conduisait depuis qu'il était au lycée. Il avait fait livrer la nouvelle voiture chez elle, une petite Honda pas trop ostentatoire, mais à chacune de ses visites, il la trouvait reléguée au garage, couverte d'un voile de poussière. Il se souvenait clairement de sa dernière conversation avec elle au téléphone, 3 jours avant sa mort, de son désintérêt croissant pour son travail et pour la vie du campus. « Personne ne publie dans les revues internationales », avait-elle dit. « Personne n'assiste plus à des congrès. On dirait un marigot dans lequel nous pataugeons tous. » Il le raconta à Ifemelu dans son email, disant que le désenchantement de sa mère pour son travail l'avait attristé. Il prit soin de ne pas insister lourdement, racontant que l'église de son village lui avait demandé de payer de nombreuses cotisations avant les funérailles, que le traiteur avait volé de la viande à l'enterrement, enveloppant des morceaux de bœuf dans des feuilles fraîches de bananier pour les lancer par-dessus le mur de la propriété à des complices, et que la famille avait été préoccupée par ce vol. Le ton avait monté. Des accusations avaient été proférées de part et d'autre. Et une tante avait dit Ce traiteur doit rendre jusqu'au dernier morceau de la marchandise volée. Marchandise volée. Sa mère aurait ri à la pensée que de la viande soit une marchandise volée et que ses funérailles se terminent par une querelle à propos de viande volée. Pourquoi, écrivit-il à Ifemelu, nos enterrements finissent toujours par n'avoir rien à voir avec la personne qui est morte? Pourquoi les villageois attendent-ils un décès pour se venger des torts passés, réels ou imaginaires? Et pourquoi creusent-ils jusqu'à l'os lorsqu'ils cherchent à obtenir leur livre de chair? La réponse d'Ifemelu arriva une heure plus tard, un flot de mots navrés. « Je t'écris en pleurant. Sais-tu combien de fois j'ai souhaité qu'elle soit ma mère? Elle était la seule adulte, excepté tante Uju, à me traiter comme une personne dont l'opinion comptait. Tu as eu beaucoup de chance d'être élevée par elle. Elle était tout ce que je souhaitais être. Je suis triste, ciel. J'imagine que tu as dû être anéantie et que tu l'es encore parfois. Je suis dans le Massachusetts, avec tante Uju et Dike, et je traverse en ce moment quelque chose qui me rapproche de ton chagrin, mais en moins intense. S'il te plaît, donne-moi un numéro où je peux te téléphoner, si tu es d'accord. » Son email le réjouit. Voir sa mère à travers le regard d'Ifemelu l'emplit de bonheur et lui donna du courage. Il se demanda à quelle douleur elle faisait allusion et il espéra que c'était la rupture avec l'Américain noir, même s'il ne souhaitait pas qu'elle en ressente un trop grand chagrin. Il essaya d'imaginer à quel point il la trouverait changée, à quel point elle serait américanisée, surtout après avoir eu une relation avec un Américain. Il remarquait un optimisme excessif chez beaucoup de ceux qui étaient revenus d'Amérique ces dernières années, toujours souriant, toujours approbateur, le genre d'optimisme survolté qui l'ennuyait, parce qu'il était caricatural et sans substance ni profondeur. Il espérait que ce n'était pas son cas. Ce n'était pas possible. Elle avait demandé son numéro de téléphone. Elle ne pouvait nourrir de tels sentiments pour sa mère si elle n'éprouvait plus rien pour lui. Il lui écrivait à nouveau, lui communiquant tous ses numéros de téléphone, ceux de ses trois portables et les lignes fixes de son bureau et de son domicile. Il termina son message par ces mots. « C'est étrange. À chaque événement majeur survenu dans ma vie, j'ai toujours pensé que tu étais la seule personne qui puisse me comprendre. » Il se sentit pris de vertige, mais après avoir cliqué sur « Envoyer », les regrets l'assaillirent. Il en avait trop dit trop tôt. Il n'aurait pas dû écrire quelque chose d'aussi maladroit. Il vérifia son BlackBerry avec obsession, jour après jour, et le 10e jour, il comprit qu'elle ne répondrait pas. Il rédigea quelques emails d'excuses, mais ne les envoya pas, gêné de devoir se justifier de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il ne décida jamais consciemment d'écrire les longs messages détaillés qui suivirent. Affirmer qu'elle lui avait manqué chaque fois qu'un événement important s'était produit dans sa vie, c'était grandiloquent, il le savait, mais pas entièrement faux. Naturellement, il y avait eu des périodes durant lesquelles il avait peu pensé à elle, quand il était absorbé par sa récente passion pour Cosi, par son nouvel enfant ou par un nouveau contrat, mais elle n'avait jamais été absente. Il l'avait toujours gardée dans un coin de son esprit. En dépit du silence qu'elle avait maintenu et de l'incompréhension amère qu'il avait ressentie. Il commença par écrire sur son séjour en Angleterre, espérant qu'elle répondrait. Puis il continua, poussé par la seule envie d'écrire. Il n'avait jamais fait le récit de sa propre histoire, ne s'y était jamais appesanti, parce qu'il avait été trop désorienté par son expulsion et par la soudaineté de sa nouvelle existence à Lagos. Lui écrire devint un moyen de s'écrire à lui-même. Il n'avait rien à perdre. Même si elle lisait ses emails avec le noir américain et riait de lui, peu lui importait. Enfin, elle répondit. Ciel, pardon pour ce silence. Dike a tenté de se suicider. Je n'ai pas voulu te le dire plus tôt. Je ne sais pas pourquoi. Il va beaucoup mieux. Mais cela a été un traumatisme qui m'a bouleversée plus que je ne l'aurais imaginé. Tu sais, tenter signifie que cela ne s'est pas produit, mais j'ai passé des journées à pleurer en pensant à ce qui aurait pu arriver. Je suis désolée de ne pas t'avoir appelée pour t'offrir mes condoléances pour la mort de ta mère. J'avais l'intention de le faire et j'ai apprécié que tu me donnes ton numéro de téléphone. Mais j'ai emmené Dicky à son rendez-vous chez le psychiatre ce jour-là. Et ensuite, j'étais incapable de prendre une décision. J'avais l'impression d'avoir été assommée. Tante Uju dit que je fais une dépression. Tu sais que l'Amérique a une façon de tout transformer en maladie qui requiert des médicaments. Je ne prends pas de médicaments. Je passe seulement beaucoup de temps avec Dicky, à regarder d'horribles films pleins de vampires et de vaisseaux spatiaux. J'ai beaucoup aimé tes emails sur l'Angleterre. Ils m'ont réconforté de bien des façons. Je ne te remercierai jamais assez de les avoir écrits. J'espère avoir l'occasion de te raconter ma vie, un jour ou l'autre. J'ai obtenu une bourse de Princeton qui vient de s'achever et, pendant des années, j'ai écrit un blog anonyme à propos de la race qui est devenu mon gagne-pain. Tu peux en lire les archives ici. J'ai retardé mon retour au Nigeria. Je te tiendrai au courant. J'espère que tout va bien pour toi et ta famille. Dicky avait tenté de se suicider. C'était inconcevable. Il se souvenait de Dicky comme d'un bambin, un nuage blanc de pampers à la taille, courant partout dans la maison de Dolphin Estate. Il était désormais un adolescent qui avait tenté de se suicider. La première pensée d'Obinze fut de vouloir rejoindre Ifemelu sur le champ. Il voulait prendre un billet d'avion et être avec elle en Amérique, la consoler, aider Dicky, remettre tout en ordre. Puis il rit de sa propre absurdité.
Chérie, tu ne m'écoutes pas, dit Kossi.
Pardon, Omalicha, dit-il.
Ne pense plus à ton travail pour le moment.
D'accord, pardon. Que disais-tu? Ils étaient en voiture. Ils se rendaient dans une école maternelle et primaire à Ikoyi, invités à une journée portes ouvertes par des amis de la paroisse de Kossi, Jonathan et Isioma, dont le fils y était scolarisé. Kossi avait tout organisé. C'était la deuxième école qu'il visitait, avant d'en choisir une pour Bucci. Obinze ne les avait rencontrés qu'une seule fois, lorsque Kossi les avait invités à dîner. Il avait trouvé Isioma intéressante. Les rares paroles qu'elle se permettait de prononcer étaient réfléchies, mais elle restait le plus souvent silencieuse, se retirant en elle-même, prétendant ne pas être aussi intelligente qu'elle l'était, pour épargner l'ego de son mari. Jonathan, un banquier dont la photo s'étalait en permanence dans les journaux, accapara la soirée avec des histoires interminables à propos de gouverneurs nigérians qu'il avait conseillés et de diverses sociétés qu'il avait sauvées de la faillite. Il présenta Obinze et Kossi à la directrice de l'école, une petite anglaise rondouillarde, en disant « Obinze et Kossi sont des amis très proches. Je pense que leur fille pourrait venir nous rejoindre l'année prochaine. »
Beaucoup d'expatriés de haut niveau inscrivent leurs enfants chez nous, dit la directrice, d'une voix empreinte de fierté, et Obinze se demanda si elle le disait systématiquement. Elle l'avait sans doute répété assez souvent pour savoir que c'était efficace pour impressionner les Nigérians. Isioma demandait pourquoi leur fils faisait encore peu d'anglais et de mathématiques. Notre approche est davantage conceptuelle. Nous souhaitons que les enfants explorent leur environnement pendant la première année, répondit la directrice.
Mais ceci ne devrait pas exclure cela. Ils pourraient aussi commencer à apprendre les maths et l'anglais, dit Isioma. Puis d'un ton amusé, qui ne cherchait pas à masquer le sérieux de la question, elle ajouta
« Ma nièce fréquente une école sur le continent et à 6 ans, elle peut épeler onomatopée. »
La directrice eut un petit sourire contraint. Un sourire qui signifiait qu'elle ne jugeait pas utile de commenter les méthodes d'école de moindre renom. Ensuite, ils s'assirent dans une vaste salle et assistèrent à un spectacle de Noël organisé par les enfants, dont le sujet était la découverte, le jour de Noël, d'un bébé orphelin par une famille nigériane sur le pas de sa porte. À la moitié de la pièce, un professeur mit en marche un ventilateur qui soufflait de petits morceaux de coton sur la scène. De la neige. Il neigeait dans la pièce.
Pourquoi cette neige ? Apprennent-ils aux enfants qu'un Noël n'est pas un vrai Noël s'il n'y a pas de neige comme à l'étranger ?
Dit Isioma. Jonathan dit, 1-1.
Quel mal y a-t-il à cela ? Ce n'est qu'une pièce de théâtre.
Ce n'est qu'une pièce de théâtre, mais je comprends ce qu'Isioma veut dire, dit Kossi en se tournant vers Obinze.
N'est-ce pas, chérie ?
La petite fille qui jouait l'ange était parfaite, répondit Obinze,
dans la voiture qu'Aussie dit « Tu as l'esprit ailleurs ?» Il lut toutes les archives de Ray Stinth ou observations diverses sur les Noirs américains, ceux qu'on appelait jadis les Nègres par une Noire non américaine. Les articles du blog l'étonnèrent. Ils paraissaient tellement américains et tellement étrangers, avec leur ton irrévérencieux et les expressions argotiques, le mélange de langues populaires et châtiées, qu'il n'arrivait pas à se représenter Ifemelu les écrivant. Il eut un mouvement d'agacement en lisant ses références à ses amants. L'ex-blanc sexy, le professeur Hunk. Il lut, juste ce soir, à plusieurs reprises, parce que c'était son article le plus personnel concernant le noir américain. Et il chercha des clés et des allusions, révélant quel genre d'homme il était, quelle sorte de relation ils avaient. À New York, donc, le professeur Hunk a été interpellé par la police, soupçonné d'être en possession de drogue. Les Noirs américains et les Blancs américains font usage de drogue, à peu près dans les mêmes proportions, vérifiez. Mais prononcez le mot « drogue » et voyez quelle image il évoque chez chacun. Le professeur Hunk est bouleversé. Il dit qu'il est professeur d'une des plus grandes universités et qu'il connaît la marche à suivre, mais il se demande quelle serait sa réaction s'il était un pauvre gosse du centre-ville. J'ai de la peine pour mon chéri. Quand nous nous sommes connus, il m'a raconté qu'au lycée, il voulait obtenir les meilleures notes possibles à cause d'une prof blanche qui lui avait dit de chercher à avoir une bourse de basket parce que les Noirs sont doués pour les activités physiques et les Blancs pour les activités intellectuelles, ce qui n'est ni bien ni mal, simplement différent. Et soit dit en passant, cette prof a été nommée à Columbia. Aussi a-t-il passé 4 années à lui démontrer qu'elle se trompait. J'en serais incapable. Vouloir réussir pour prouver que j'ai raison. Mais je me suis sentie blessée, moi aussi. Bon, maintenant je vais lui faire du thé et lui administrer un peu d'attention et d'amour. Parce qu'à l'époque où ils s'étaient quittés, elle ne connaissait presque rien des sujets qu'elle traitait dans son blog, il eut l'impression de l'avoir perdue, comme si elle était devenue quelqu'un qu'il ne pourrait plus reconnaître.